Le journal présenté par Thomas Larabie.
Bonjour à tous. À trois jours du débat national censé apaiser la colère, la mobilisation des Gilets jaunes a connu un vif rebond hier. 92 000 personnes ont défilé dans tout le pays, selon les chiffres de France Info. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur avait recensé 50 000 manifestants. Si plusieurs défilés ont été émaillés de heurts, notamment à Paris, Bordeaux et Toulouse, les violences ont été globalement moins nombreuses que lors des actes précédents. Au total, 22 personnes ont été blessées, 200 manifestants placés en garde à vue. À Paris, c'est 8 000 personnes qui ont défilé dans le calme, encadré par un service d'ordre des Gilets jaunes eux-mêmes. Explication Sophie Parmentier.
Dans les cortèges de Gilets jaunes hier, un service d'ordre interne inédit a sans doute fait baisser d'un cran le niveau de tension avec les policiers et les gendarmes. Ces Gilets jaunes au brassard blanc ont travaillé main dans la main avec les forces de l'ordre et c'est peut-être ce qui a permis de limiter le niveau de violence que le gouvernement redoutait tant. À Paris, la préfecture de police s'est félicitée hier soir qu'il n'y ait eu presque aucune dégradation, alors que ces derniers samedis, des casseurs s'en étaient pris à plusieurs symboles de la République et à de nombreux commerces qu'ils avaient saccagés. Pour cet acte 9, il n'y a donc pas eu de casse matérielle dans la capitale, mais des blessés sont néanmoins à déplorer dans les deux camps. Deux blessés du côté des forces de l'ordre, une vingtaine du côté des manifestants à Paris. D'autres blessés ont été recensés dans d'autres villes de France, dont Bourges, épicentre de la mobilisation hier. Mais globalement, le ministre de l'Intérieur a exprimé son soulagement hier soir. À Paris, la responsabilité l'a emporté sur la tentation de l'affrontement. Place maintenant au grand débat national, a déclaré Christophe Castaner.
Les explications de Sophie Parmentier, une mobilisation contre la précarité qui dure alors que le Don Action du Secours Populaire débutait hier. Les 80 000 bénévoles de l'association vont récolter des dons en organisant des événements jusqu'à la mi-mars pour aider les populations les plus fragiles. 1 million d'euros avait été récolté l'an passé. Pour Thierry Robert, directeur général du Secours Populaire, le mouvement des Gilets jaunes met en lumière une montée de la précarité que son association observe depuis plusieurs années. Thierry Robert, à propos des Gilets jaunes.
On n'a pas à prendre position, nous on agit sur les conséquences, on n'est pas sur les causes. Ce que l'on peut dire, c'est que la question de la précarité est une question que nous avons soulevée depuis déjà plusieurs années, en parlant de l'avancée malheureuse de la pauvreté chez les travailleurs, ce qu'on a appelé à un moment donné les travailleurs pauvres. On l'a rencontré aussi chez les étudiants, avec une présence accrue d'une association comme le Secours Populaire dans les universités pour apporter l'aide aux étudiants, ou encore depuis maintenant quelques mois, l'accroissement des situations de pauvreté chez les seniors. La situation de la précarité est une réalité qui frappe aux portes du Secours Populaire Français depuis déjà de nombreuses années.
Thierry Robert au micro d'Inès Lombarté. Après une semaine de fragiles espoirs de paix au Yémen, 16 organisations humanitaires et de défense des droits humains ont adressé une lettre aux députés français. Cette missive porte sur le rôle que joue la France dans ce conflit. Une piqûre de rappel on ne peut plus nécessaire pour Antoine Madelin de la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, un des signataires de cette lettre.
On a besoin que l'Assemblée nationale française aujourd'hui réalise le rôle de la France dans le conflit au Yémen et rappelle la France à ses obligations internationales puisque la France est partie à un traité international dans lequel elle s'engage à ne pas vendre des armes si ces armes peuvent être utilisées pour commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. En pratique, on a documenté que la France avait alimenté la coalition saoudienne et les Émirats arabes unis dans le contexte de la guerre au Yémen. Et on a souhaité que le Parlement puisse intervenir pour contrôler ces ventes d'armes et demander la suspension de ces ventes d'armes comme l'ont fait d'autres parlements européens. Il est très important aussi de dire très clairement aux autorités saoudiennes et des Émirats arabes unis que la France cessera de soutenir ce conflit, comme vient aussi de décider le Sénat, le Congrès américain, qui a aussi décidé de suspendre les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis.
Antoine Madelin, interrogé par Nadine Epstein. Le conflit au Yémen, qui a tué entre 70 et 80 000 civils depuis le début du conflit en 2015, selon plusieurs ONG, et plongé le pays dans ce que l'ONU appelle la pire crise humanitaire au monde. Elle vit les premières heures de cette liberté dont elle a tant rêvé. Raaf Mohamed Al-Kounoun, la jeune Saoudienne de 18 ans qui avait fui sa famille, est enfin arrivée au Canada, qui lui a ouvert ses portes. C'est le ministre des Affaires étrangères en personne qui l'a accueillie à l'aéroport de Toronto. Son appel à l'aide sur les réseaux sociaux avait ému aux quatre coins du monde, jusqu'au premier ministre canadien Justin Trudeau, qui a réaffirmé le soutien du Canada aux droits des femmes à travers le monde. À Toronto, Pascal Guéricolas.
Vêtue d'une veste portant l'inscription Canada et coiffée d'une casquette aux couleurs du Haut Commissariat aux réfugiés, la jeune Raaf a fait une brève apparition devant les journalistes. La ministre canadienne des Affaires étrangères l'a enlacée, tout sourire. Chrystia Freeland l'a qualifiée de courageuse nouvelle canadienne et a expliqué qu'elle doit se reposer maintenant de ce long voyage. Manifestement, le gouvernement a choisi d'afficher son soutien envers la jeune fille au risque de s'attirer les foudres des autorités saoudiennes. Les relations entre les deux États ne sont pourtant pas au beau fixe depuis l'été dernier. En août, la ministre canadienne des Affaires étrangères a irrité le régime de Riyad en questionnant l'emprisonnement de féministes saoudiennes. L'Arabie saoudite a aussitôt répliqué en renvoyant l'ambassadeur canadien chez lui et en suspendant les vols entre Riyad et le Canada. Il faudra voir de quelle façon l'accueil en terre canadienne d'une jeune fille clairement opposée aux règles patriarcales du royaume va influer sur les rapports entre les gouvernements canadiens et saoudiens.
Les explications de Pascal Guéricolas, l'affaire prend une tournure politique, on l'a entendu. Justin Trudeau doit d'ailleurs rencontrer en début de semaine la femme du blogueur Raaf Badawi, emprisonnée en Arabie saoudite. Elle et ses enfants sont également réfugiés au Canada, au Québec précisément. Les nouvelles révélations du New York Times plongent Donald Trump dans une colère noire. Le quotidien affirme que le FBI a ouvert une enquête à l'encontre du président pour déterminer s'il travaillait pour les Russes. Une investigation ouverte il y a un an et demi, peu après que Trump ait limogé le patron du FBI, James Comey. Côté météo, ciel couvert sur tout le pays ce matin, à l'exception du quart sud-est, de la pluie de l'Alsace au Pays Basque en passant par le centre et la région Rhône-Alpes. Côté température, c'est plutôt doux, comptez 11 à Paris, 10 à Lille, 8 à Limoges, 11 à Bordeaux et 13 à Marseille et Bastia.